办法。
Eh bien, chers et chers collègues, chers et chers amis surtout, il me revient donc d'ouvrir cette journée inaugurale de l'Institut d'établissement, formation et recherche SOMUM, donc Société en mutation en Méditerranée. Pour ceux qui me connaissent, vous imaginez à quel point c'est un immense plaisir et un immense honneur que d'avoir ce privilège d'inaugurer cet institut auprès de mes collègues féminines, là en l'occurrence, j'y reviendrai. Je pense qu'effectivement, on est dans un moment extrêmement important, un moment académique extrêmement important. C'est un peu un tournant pour tous ceux qui travaillent, notamment en sciences humaines et sociales, sur un espace méditerranéen ouvert, bien sûr. C'est un moment extrêmement important parce qu'il s'inscrit dans une trajectoire de longue durée. On sait tous que la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme s'est mise en place en 1998 grâce à Robert Hilbert qui a pensé ce concept de Méditerranée à travers les sciences humaines et sociales. Et puis ont suivi de très beaux projets auxquels nous avons participé, des projets européens, notamment le laboratoire d'excellence sur la Méditerranée, qui a été porté par nous tous et aussi évidemment par Brigitte Marin, qui est désormais à la tête de l'École française de Rome. Donc nous avons aujourd'hui un moment important qui va impulser en fait une nouvelle temporalité pour la formation, pour la recherche, pour l'international et pour notre relation au territoire, j'y reviendrai. Donc le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que, comme vous le savez, certainement, il y a aujourd'hui 13 instituts de recherche et de formation qui ont été donc mis en place dans les statuts de l'Université d'Aix-Marseille. Parmi ces 13 instituts, il y en a donc 3 qui sont consacrés aux sciences humaines et sociales. Donc l'Institut SOMUM, l'Institut Arcaïa sur les archéologies méditerranéennes, qui est porté par Jean-Christophe Sourisseau, l'Institut Créativité et Innovation, qui est porté par Nathalie Bonnardel. Donc 3 instituts qui consacrent, si on peut dire, ces disciplines. Il y en a un 4e, ITEM, qui porte sur la transition environnementale et qui comprend une part, là aussi, de sciences humaines et sociales extrêmement importante en relation avec d'autres disciplines qui travaillent sur ce sujet. Et puis, vont certainement venir de nouveaux instituts qui sont en cours d'évaluation qui, là aussi, donneront une place, notamment à l'économie, par exemple, dans notre université. Donc j'insiste sur les sciences humaines et sociales, non pas pour porter ces disciplines au pinacle, mais pour dire quelque chose qui m'est cher, c'est que nous sommes dans une université qui est le second pôle en France concernant les sciences humaines et sociales. Et il est de notre responsabilité de mieux faire connaître nos travaux, de rendre davantage visibles les particularités, les singularités, la diversité des productions de ces disciplines, mais dans une façon peut-être de faire qui doit être un peu nouvelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fabriquer des forteresses en sciences humaines et sociales. Il s'agit dans notre université qui est extrêmement pluridisciplinaire, de démontrer que ces disciplines peuvent être au cœur d'enjeux, de réflexion, de savoir, de connaissance, et que nous avons donc à travailler ensemble dans des logiques réflexives sur la place de l'homme, finalement, dans la société, dans le monde. Je voudrais revenir aussi sur la raison pour laquelle cette université a mis en place des instituts de recherche et de formation, dont celui que nous inaugurons aujourd'hui. Alors, je pense que il faudrait peut-être revenir au moins sur quatre raisons. La première raison, c'est que nous avons donc une grande université avec 20 composantes de formation, une centaine de laboratoires de recherche, 80 000 étudiants, etc. Donc une très grande université qui a fusionné, mais qui avait besoin, à un moment donné, de se rendre visible et se structurer sur les grandes thématiques qui sont les siennes. C'est-à-dire qu'il fallait, à un moment donné, permettre l'émergence de ce qui nous particularise, ce qui permet finalement à tout un chacun de se sentir partie prenante de manière particulière de cette université et peut-être d'attirer des étudiants ou des chercheurs qui vont percevoir là aussi les thématiques singulières qui sont les nôtres. Donc c'était le premier point, rendre visibles les grandes thématiques et celles sur les sociétés en mutation en Méditerranée en est une. Deuxième raison, il y a un problème majeur dans les universités qui s'était installé depuis très longtemps, c'était la division et parfois même les affrontements entre la formation et la recherche. Il se trouve que dans une université, nous avons beaucoup d'enseignants-chercheurs et il y a donc l'enseignement et la recherche qui forgent en fait notre parcours. Et cette division qui s'était installée depuis quelque temps n'était sûrement pas profitable pour personne. Parce que nous avions des difficultés de recrutement, parce qu'il y avait une sorte d'incompréhension même de la part des étudiants de ce statut singulier qui divisait finalement les enseignants entre leur part de recherche et leur part de formation. Il fallait donc retrouver du lien entre les composantes et les unités de recherche. Et ces instituts sont là pour mettre en place ces nouvelles relations, pour construire évidemment l'avenir en pensant systématiquement formation et recherche ensemble. Je pense que c'est un de nos grands enjeux à l'échelle internationale et sur notre territoire. Donc ça, je pense que c'est le deuxième point essentiel et la grande nouveauté, certainement, de ces instituts. Il y avait eu des laboratoires d'excellence, comme le Lab ExMed, que tout le monde connaît, mais qui portaient sur la recherche. Et cette survalorisation de la recherche dans une université n'est pas la bonne voie. Nous avons 80 000 étudiants, et ces étudiants, il faut aussi les soutenir. Tous ceux qui sont investis très fortement dans l'enseignement et dans la pédagogie, ce sont des collègues qu'il faut là aussi soutenir au même titre que la recherche. Donc le troisième point qui me paraît important pour la mise en place de ces instituts, c'est de donner du temps. C'est-à-dire que nous sommes confrontés depuis plusieurs années avec les appels à projets, la façon dont le ministère de l'Enseignement supérieur conçoit les grands établissements de recherche. Nous sommes confrontés systématiquement à des appels à projets avec des durées qui sont courtes et des financements que nous devons sans cesse renouveler. Donc là aussi, ce n'est pas une bonne démarche, je crois, pour un travail apaisant dans notre établissement. Et donc nous avons pensé que ces instituts permettraient sur la durée de travailler dans le calme et de manière apaisée. C'est-à-dire que ces instituts sont là pour une longue durée, ils sont dans les statuts de l'université, ils sont inscrits dans l'établissement. Il y a donc tout le temps de construire ensemble les programmes de recherche et de formation, sans aller courir systématiquement après de l'argent, même si, évidemment, il va y avoir des compléments qui se mettront en place. Mais l'université apporte un socle qui permet, donc, dans la durée, de se stabiliser. Et je terminerai avec un dernier point, qui est qu'effectivement, nous aurions pu, comme le ministère l'a fait pour des universités qui n'étaient pas IDEX, c'est-à-dire tout simplement renouveler les laboratoires d'excellence tels qu'ils existaient. Bon, d'une part, il n'y avait que la recherche qui était privilégiée, pas la formation, donc c'était dommage. Et d'autre part, renouveler toujours les mêmes choses, ce n'est pas forcément non plus une bonne option. Il faut laisser la possibilité à la nouveauté. Donc nous avons parmi les instituts qui ont été validés, des instituts qui sont héritiers de laboratoires d'excellence, et c'est en partie le cas pour SOMUM, mais il y a d'autres instituts de recherche et de formation qui sont complètement neufs, et donc qui ont émergé pendant cette période. Donc il faut aussi, je crois, et c'est le rôle d'une institution, de laisser la place à de nouvelles idées, à ce qui émerge, à la création, hein, finalement. Je voudrais dire deux mots aussi sur les perspectives qui sont celles de ces instituts. Je crois que si il faut peut-être essayer de les voir avec un certain état d'esprit. Ce sont des dispositifs qui sont des lieux d'expérimentation, de coopération, de collaboration. Je crois qu'il faut vraiment les penser ainsi, hein, il faut se les approprier. Ils appartiennent à tous les laboratoires, à toutes les composantes, à tous les collègues. Il y a donc ici un moyen finalement d'expérimenter un certain nombre de manières de faire la recherche et la formation autrement. Et je pense que c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il faut concevoir ces nouveaux dispositifs. Alors je termine en remerciant mes collègues, enfin vous tous, parce que vous avez tous participé à votre façon à la mise en place de ces instituts, sur la longue durée, par vos travaux, par vos enseignements. Je remercie évidemment surtout Sylvie Mazella, qui s'est totalement engagée depuis des mois pour soutenir, structurer, défendre cet institut. Je la remercie et je lui dis toute mon admiration. Elle a été absolument remarquable. Je remercie aussi Isabelle Renaudet, évidemment, qui va avoir cette place extrêmement importante de valoriser l'enseignement et la formation dans cet institut. Et puis Delphine Mercier, que j'ai eu le plaisir de découvrir il n'y a pas si longtemps. Et donc nous avons un trio de femmes, donc elles n'ont pas joué la parité, mais une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume, et donc on va leur pardonner très volontiers. Alors pour terminer, un dernier petit mot pour dire tout le plaisir que j'ai aussi à titre personnel de voir la présence de François Hartog et de Christian Grataloup, hein, qui vont donner du contenu, de la chair à cet institut. Donc François Hartog, que j'admire depuis longtemps sur ses travaux, hein, autour de l'expérience du temps, des usages politiques du passé. Ce matin, je me rappelais qu'en 84, je faisais une maîtrise sur la peste de 1720. C'était dans la continuité d'une commémoration en 1980 sur la peste, justement, à Marseille. Et là, on est dans le tricentenaire de la peste de 1720, à un moment où le contexte épidémique vient nous rappeler que les choses ne sont pas si différentes dans la gestion de la crise épidémique entre le 18e et le 21e siècle. Et puis Christian Grataloup, bien sûr, qui est un habitué de la LMSH, il était déjà là en 2014 pour les 20 ans de TLM. Et avec Christian, évidemment, tout le plaisir, c'est de sortir d'un certain nombre de stéréotypes que l'on peut avoir sur la Méditerranée, une Méditerranée qui n'est pas du tout une mer fermée, une Méditerranée qui est totalement ouverte sur le monde. Et donc je les remercie de leur présence. Voilà, je nous souhaite à tous donc une excellente journée. Je nous souhaite surtout de savourer cette journée et ce grand moment qui est un tournant pour nous tous. Merci beaucoup.
Alors à mon tour de remercier très chaleureusement et sincèrement Marilyn Crivello, hein, de sa présence à nos côtés aujourd'hui et qui témoigne encore une fois de son soutien indéfectible aux recherches en sciences humaines et sociales. Et à travers Marilyn Crivello, je remercie le président d'Aix-Marseille Université, Éric Berton et ses équipes. Je remercie la présence donc du vice-président recherche, des équipes qui s'engagent aujourd'hui pleinement dans la mise en œuvre de ces instituts. Je vous remercie tous d'être venus nombreux aujourd'hui à cette journée inaugurale et de montrer ainsi votre intérêt donc pour ce nouvel institut. Cette journée inaugurale, comme vous le savez, sera composée de deux grands temps forts. Alors un premier temps fort ce matin, donc nous avons donc l'honneur et le grand plaisir d'accueillir François Hartog et Christian Grataloup sur le thème donc, que nous allons écouter sur le thème « Temps et espace, la trame du présent et la Méditerranée dans la mondialisation ». Et puis l'après-midi, nous poursuivrons avec un second temps fort consacré à des ateliers. Donc l'idée est que les participants se répartissent en trois groupes de travail pour réfléchir ensemble en fait aux thématiques et aux axes scientifiques de l'Institut qui composent le pôle recherche de notre Institut. Et l'objectif qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, ce sont des ateliers qui doivent permettre au plus grand nombre de s'emparer des axes scientifiques, de prendre connaissance de ces axes et puis de s'en emparer. Et en quelque sorte, ces ateliers, il faut les voir comme des boîtes à idées. Des boîtes à idées pour ajouter des idées nouvelles aux idées premières du projet que nous avons défendu ces derniers temps. Comme le rappelait Marilyn, de réfléchir maintenant aussi, et pendant quelques mois encore, hein, parce que nous sommes en chantier, nous sommes vraiment dans une phase programmatique qui reste à l'écoute, y compris à l'écoute de ce qui se fait, de ce qui se dit dans un contexte de mobilisation, d'être à l'écoute aussi et de proposer, y compris des nouveaux critères sur les appels à projets, par exemple, qui sont au plus près des attentes des collègues. Alors, avec Isabelle Renaudet, donc directrice adjointe formation de l'Institut, et Delphine Mercier, directrice adjointe recherche, nous vous proposons aujourd'hui, dans le cadre de cette matinée, de revenir très vite sur les objectifs et sur les missions de formation recherche. Alors, le bureau ici représenté n'est pas complètement au complet. Je tiens sincèrement à remercier Chloé Châtelain, chef de projet de l'Institut, qui, vous en doutez bien, est au cœur de l'organisation scientifique de l'Institut. Je remercie aussi Sophie Bavin et Pascal Gauthier, respectivement chargé de mission Méditerranée-Afrique et chargé de mission formation droit. Je profite aussi de cette fenêtre sur les remerciements pour remercier les ingénieurs, les techniciens d'Aix-Marseille Université et de cette maison et les étudiants en master que vous verrez tout au long de la journée qui nous prêtent main forte dans l'organisation et dans la diffusion de cette journée. Je vous en remercie. Alors, en ce qui concerne les objectifs de l'Institut, eh bien, je dirais que l'objectif principal, il est bien de comprendre, d'abord d'observer, de comprendre, d'analyser, voire de projeter les transformations durables, structurelles, autour de la Méditerranée, de l'Europe jusqu'en Afrique, jusqu'au Moyen-Orient et au-delà, jusqu'en Asie. Alors, pourquoi considérer la Méditerranée, comment expliquer que cette Méditerranée occupe une place si centrale dans notre institut? Eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Pour commencer, je dirais que la Méditerranée est redevenue centrale dans l'agenda politique, dans les médias, nous l'avons tous constaté. Elle est pour nous, chercheurs, un formidable laboratoire, observatoire des questions qui se posent à l'échelle du monde. Alors, pour en citer quelques-unes, je pourrais citer donc tout un questionnement sur la transition démocratique aujourd'hui dans un contexte de crise politique, économique. Je pourrais citer aussi tout le questionnement autour des migrations internationales, les questionnements sur la transition démographique ou encore les questionnements sur les conséquences sociales des changements climatiques et de la transition énergétique. Voilà quelques questions qui me viennent à l'esprit et qui font que la Méditerranée est pour nous avant tout un formidable terrain, champ d'expérimentation, champ de problématisation et de conceptualisation nouvelle. Alors, Marlène le rappelait, cet institut, et c'est un autre élément de réponse à la question « Pourquoi la Méditerranée dans cet institut ?» eh bien, est héritier donc d'un certain nombre d'actions qui ont été menées ces dernières années et qui ont été portées par des personnalités scientifiques. Et à mon tour, nous sommes, et tous ensemble bien sûr, reconnaissants à Robert Hilbert d'avoir déjà, donc, c'est pas rien, créé cette maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Je remercie également Brigitte Marin et toute son équipe d'avoir porté pendant 10 ans un laboratoire d'excellence sur les questions de sciences sociales et humaines au cœur de l'interdisciplinarité pour la Méditerranée, qui regroupait donc pendant 10 ans 16 unités sur le site. Et bien entendu, nous sommes très reconnaissants envers Sophie Bouffier, qui dirige actuellement cette maison méditerranéenne des sciences de l'homme, maison sur laquelle l'Institut, aujourd'hui, peut s'appuyer pour déployer des actions concertées. Alors, fort de ce socle, aujourd'hui, eh bien, nous partons effectivement vers une nouvelle aventure scientifique, collective et collaborative. Je rappellerai 2 principaux objectifs. Le premier, il est de faire converger, de fédérer les forces disciplinaires en sciences humaines et sociales, l'ensemble des forces disciplinaires en sciences humaines et sociales et l'ensemble des instituts en sciences et sociales sur le site d'Aix-Marseille Université qui prennent pour objet les études méditerranéennes. Renforcer davantage encore les échanges avec le droit, avec l'économie, avec la démographie, avec aussi les humanités et bien entendu aussi avec les sciences dites dures. Premier grand objectif. Deuxième grand objectif, il est bien d'articuler formation et recherche dès le niveau du master jusqu'au doctorat, en passant et jusqu'au post-doctorat et en passant par le doctorat, en lien avec des partenaires des académiques et notamment des universités étrangères, en lien aussi avec des acteurs socio-économiques et culturels, de façon à rendre plus cohérents les parcours sur les études méditerranéennes dès le master et de renforcer ce lien entre master et doctorat. Alors, de façon générale, je rappellerai 2 principes qui animeront l'Institut. Eh bien, on défendra l'idée d'une Méditerranée polycentrique et réticulée. Une Méditerranée qui tienne en compte à la fois un contexte micro, local, traversé aussi par des dynamiques globalisées. Et il s'agira bien de prendre en considération à la fois les héritages et puis les intersections d'ensembles spatiaux différents. Et on est bien loin de l'idée que l'on peut voir encore et que l'on peut observer encore dans notre communauté d'une représentation d'un monde par bloc ou par case, là l'Europe, là l'Afrique, et là, ou là encore le Moyen-Orient et l'Asie. Ça, c'est un premier principe. Un second principe, et non des moindres, c'est de défendre l'idée d'une recherche et de projets de recherche qui laissent vraiment la place à une pensée indépendante, à une pensée qui se veut aussi intuitive, j'allais dire vagabonde, qui laisse la place vraiment à l'improvisation, à l'inattendu, à la sérendipité. J'ai réussi à le dire. Je dis quelques mots maintenant sur le partenariat. Voilà, une slide, une diapositive qui montre la composition donc, de notre conseil d'institut, de notre partenariat. Je passe rapidement. Il s'agit de 11 unités qui sont donc dans notre consortium. deux écoles doctorales, trois composantes de formation et recherche, et puis quatre organismes qui sont partenaires aussi, le CNRS, l'IRD, le HESS et l'UEP d'Aix. Alors, pour dire que nous travaillons d'ores et déjà, vraiment, nous avons engagé un travail collaboratif ensemble, dans le respect des missions de chacun. Ce conseil d'institut se réunit trois fois par an, et dont une fois avec un comité d'experts international pour le conseiller dans ses missions. Alors, la structuration du projet. Eh bien, vous le voyez, elle est principalement composée de deux grands pôles, un pôle recherche et un pôle formation. Et j'allais dire, ce qu'il faut retenir de cette diapositive, ce sont les flèches. Il nous faudra constamment et régulièrement réfléchir à vraiment l'articulation, la connexion entre la formation et la recherche. Et je laisse sans tarder la parole à Isabelle Renaudet pour commencer, et ensuite à Delphine Mercier.
Merci Sylvie. Bonjour à tous et merci à l'assistance d'être venue en nombre écouter le lancement de cette journée. Donc on vient de le signaler Sylvie Mazella, mon propos vise à vous présenter les objectifs de l'Institut dans le domaine donc de la formation. Alors cette diapositive qui est donc diffusée indique bien que cet institut d'établissement correspond à une structure qui marche sur deux jambes, donc le pôle formation, le pôle recherche, et donc l'Institut a été créé pour que ces deux volets, ces deux pôles, accordent leur pas, suivent tant que faire se peut la même trajectoire et s'enrichissent mutuellement. Donc cette entrée en matière éclaire donc le premier des objectifs de l'Institut, renforcer l'articulation entre la recherche et la formation au niveau du master et du doctorat et jusqu'au post-doctorat, le tout dans une perspective interdisciplinaire, puisque cette interdisciplinarité est au cœur de cet institut. Cela signifie donc que les projets de recherche qui seront développés et soutenus par l'Institut devront aussi être pensés en miroir avec la formation. Donc après ce premier constat, est-ce que tu peux revenir s'il te plaît à la diapositive précédente? Merci. L'esprit de collaboration qui anime l'équipe et qui donc préside aux objectifs de l'Institut ont été soulignés. C'est l'occasion donc de présenter le second objectif qui est donc de travailler en collaboration, travail collectif que l'équipe a déjà engagé avec les membres du consortium, donc en particulier avec les responsables des 8 mentions de master qui sont adossées donc aux deux composantes formation membres du consortium que vous voyez apparaître sur la partie inférieure de la diapositive, à savoir la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines et la faculté de droit et de sciences politiques, donc d'une part, et de l'autre part les deux écoles doctorales qui donc sont l'école doctorale 355 rattachée à la MNSH et donc l'école doctorale 67 rattachée à la faculté de droit et de sciences politiques. Et donc la journée de lancement de l'Institut d'aujourd'hui est l'occasion d'élargir à l'ensemble des membres du consortium la réflexion qui a déjà été engagée avec les directeurs et directrices des ED et les responsables de master en question. Alors, ces généralités posées, en quoi consiste donc ce volet formation de l'Institut? Alors, on est en mesure déjà de faire un premier bilan, encore très modeste, puisque nous en sommes au début de la construction de ces maquettes. Pour ce qui est donc du doctorat, des réunions ont eu lieu qui ont déjà acté l'idée de la création d'une spécialité études méditerranéennes qui sera ouverte dès la rentrée prochaine, c'est ce que nous espérons en tout cas, aux doctorants et doctorantes de l'ED 357 et 67. Pour ce qui est des masters, Le chantier qui s'ouvre va se déployer en deux temps, sur deux phases. La première s'étend la rentrée 2020 jusqu'à la rentrée 2023, date à laquelle notre université aura mis en place une nouvelle accréditation. Donc durant cette phase, l'objectif est de mettre en place avec les responsables des masters du consortium un parcours labellisé études méditerranéennes qui sera transverse aux 8 mentions de master que nous avons évoquées. Et la seconde phase, qui démarrera donc à la rentrée 2023, correspondra au lancement d'un nouveau master interdisciplinaire intitulé études méditerranéennes. Donc l'idée étant de renforcer le lien entre recherche et formation, les axes forts de ce volet pédagogique de l'Institut viseront par exemple à renforcer les liens entre les masterants, les étudiants de master et les laboratoires de recherche, et également à multiplier les contacts et les échanges entre étudiants en master et doctorants. En tout cas, quel que soit le niveau master ou doctorat, quelle que soit la phase du calendrier que je viens d'envisager, avant ou à partir de 2023, l'objectif, comme l'a souligné Sylvie Mazella, est de renforcer la cohérence de la formation sur les études méditerranéennes en partant du potentiel qui existe, potentiel de recherche en SHS et en droit, et potentiel formation dans les deux composantes auxquelles l'Institut est adossé, l'UFR ALCH et la Faculté de droit et de sciences politiques. Et enfin, je finirai en insistant sur le fait que la philosophie de l'Institut est également de renforcer l'ouverture internationale des formations, aussi bien dans les contenus qui sont dispensés, qui sont encore à élaborer, que dans la pratique de la mobilité proposée aux étudiants de master et de doctorat. Je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole à Delphine.
Ça marche pas, ça. Bon, ben, je vais faire très court hein, pour laisser la place. Donc, je suis ravie d'être là et on est ravis d'être là aujourd'hui avec vous hein, pour remercier et vous remercier de votre confiance. L'Institut est sans doute l'opportunité de faire que la journée d'hier soit une journée du futur. Hein, et nous souhaitons sortir un peu de ce mainstream un peu utilitariste et comptable dans lequel on est tombé depuis ces dernières années. Et de mesurer, à force de mesurer la performance un peu à court terme, pour respirer un peu de nouveau ensemble. Voilà, c'est un peu le but. On a peut-être trop souvent considéré les questions relatives à la rentabilité immédiate, et on est passé parfois à côté de certaines utopies. Donc, nous savons tous qu'aucun génie n'existe sans un collectif stable, compétent et à l'abri de la précarité. Ça, c'est le message un peu politique de la journée. Et le lendemain du 5 mars, l'université s'est arrêtée pour renouer avec sa tradition. Vous m'entendez pas ? Voilà, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Je dois mettre et les lunettes et le cahier. Donc le lendemain du 5 mars, où l'université s'est arrêtée pour renouer avec sa tradition, nous avons souhaité que cet institut soit un espace d'utopie, d'imaginaire et de résistance. Donc vous avez vu les trois axes sur lesquels nous allons travailler ensemble, si vous le voulez bien, et on a envie que vous ayez envie d'ailleurs. Donc je ne redis pas les noms parce que vous les avez là au tableau et on en rediscutera. Et puis on va s'appuyer bien sûr sur toutes vos idées et comment nous allons le faire. Eh bien, nous allons le décider collectivement cet après-midi en atelier. Hein, et nous allons discuter non pas uniquement de recherche, mais bien de formation et de recherche. Et ensuite, dans un cercle plus restreint, nous sommes rencontrés, nous allons travailler avec les référents par laboratoire. Donc, où étions-nous hier, nous demandait un de nos collègues ce matin, si vous êtes abonné à la liste des luttes. Ben, on était là, et aujourd'hui, on est aussi ici. Et donc, ça, c'est plutôt un signe très, très positif. Donc, voilà, merci à vous tous. C'est pour faire quoi hein.
Donc, je reviens très, très rapidement sur les trois pôles transversaux que vous voyez affichés en jaune en bas. Alors voilà, ce sont trois pôles transversaux à la fois la formation et la recherche, et je vais très, rap- très rapidement les mentionner parce que l'heure tourne. Donc, un premier pôle sur données de recherche et nouvelles écritures en sciences sociales, et bien là, il s'agit encore une fois, et dans les prochains mois, nous y travaillerons, à travailler en différents groupes de travail pour développer les initiatives qui explorent les données, que ce soit des nouvelles données tirées des terrains, que ce soit des données... des textes, des archives, ou que ce soit encore des enquêtes, des grandes enquêtes quantitatives, ou encore des big data tirés des réseaux sociaux. Et puis avec ces données, bien entendu, eh bien explorer les méthodes interdisciplinaires mixtes, explorer les écritures aussi en sciences humaines et sociales qui restent à inventer. Un deuxième pôle transversal porte sur le lien entre recherche, formation et acteurs socio-économiques et culturels. Là aussi, c'est un chantier qui nous attend dans les prochains mois pour eh bien, tout simplement apprendre à se connaître encore, hein, parce qu'il faut encore discuter ensemble, et puis créer des passerelles pour identifier des actions communes de recherche et de formation. Et puis un troisième axe, vous le voyez, prospective et projection, approche critique et interdisciplinaire. Là, on défendra ici l'idée que nos disciplines en SHS sont capables de penser le monde en devenir, de penser ensemble passé, présent, futur. Nous sommes bien entendu tout à fait conscients de la difficulté à penser les évolutions du monde à venir, et ce n'est pas nouveau. Les Grecs ont eu recours au mythe pour traiter cette difficulté. Mais plutôt que de chercher à l'évacuer, parce que ce aurait pu être tout à fait notre premier geste, parce que la dimension prospective dans nos laboratoires est effectivement une dimension nouvelle, eh bien, il nous est apparu au contraire important de garder ce questionnement et de le garder de façon exploratoire, de façon critique aussi. Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés qui ont de plus en plus besoin de scénarios, et de le faire aussi de manière interdisciplinaire. Et de ce point de vue, il me semble que l'Institut est un bon cadre expérimental pour cela. Là, il s'agit de faire comme le font les historiens pour le passé, de combattre des idées reçues, les mésusages et les manipulations du futur, comme on le voit actuellement dans de nouveaux millénarismes, hein, que ce soit la collapsologie ou la théorie du grand remplacement, dont on voit bien l'impact politique et médiatique que ces théories ont. Donc il faut rester vigilant. Et puis à travers cette question, c'est aussi la place du chercheur en SHS dans nos sociétés, s'interroger sur notre difficulté à penser un monde en crise et une sortie de crise, et nous interroger aussi sur notre responsabilité dans la construction de nouvelles représentations du monde. Voilà, enfin, et pour laisser la parole à nos deux conférenciers, François Hartog et Christian Grataloup, je me permets de citer, j'espère une citation qui vous fera plaisir, une citation de Jean-Pierre Vernant, que je tire de son livre « La traversée des frontières ». « Pour être soi, nous dit Jean-Pierre Vernant, il faut se projeter. Projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c'est perdre, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se construit par le contact, l'échange, le commerce avec l'autre. Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont. » Donc à travers, bien sûr, cette citation, eh bien, on voit bien toute la portée qu'elle peut avoir sur l'actualité du moment, sa résonance particulière, dans un contexte, on le sait, de montée des idées extrémistes dans le débat public. Et c'est bien grâce à des recherches en sciences humaines et sociales et à des recherches indépendantes que nous pouvons contribuer à la vigilance citoyenne. Voilà, je vous remercie.